Matthieu 24, versets 36 et suivants. Matthieu 26, versets 36 et suivants. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une simple heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Juste après avoir institué la Sainte Cène, Jésus part à Gethsémané et il y a cette scène qui se déroule où il prie et ses disciples s'endorment. Le thème de la prédication ce matin, le titre, je l'ai appelé « Réveille-toi ». Ce sera aussi le thème qui va nous accompagner pour la prochaine série de prédications. Nous allons parler du réveil. Alors, réveille-toi. Réveille-toi, vous savez, quand on apprend à faire des prédications, puis qu'on a des retours, en général, il y a une chose qui fait, c'est qu'on s'adresse, on tue à l'assemblée, puis la personne nous dit, mais fais attention, il ne faut pas trop interpeller les gens, il ne faut pas trop être choquant, il faut mieux dire, réveillons-nous. Réveillons-nous, comme ça, on s'inclut avec... Alors je vous dis tout de suite, je m'inclus, quand j'entends « réveille-toi », je ne me dis pas juste « réveille-toi, toi qui es assis là », je me dis aussi à moi-même « mais réveille-toi ». Mais derrière cet impératif qui est adressé, pas simplement « réveillez-vous » de façon générale, mais « réveille-toi », c'est une interpellation qui est personnelle. Et je crois que quand on est un petit peu endormi, ce qui peut nous arriver, ce qui m'arrive en tout cas, d'entendre quelqu'un dire « réveille-toi », ben c'est absolument indispensable. Imaginez, vous êtes dans votre lit, vous devez partir, vous n'avez pas mis de réveil. Ben, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous secouer, vous avez beau vous dire « réveille-toi, réveille-toi », ça ne fonctionne pas, vous êtes toujours en train de dormir. Et en fait, j'ai été interpellé par ce thème, nous avons été interpellés par ce thème, on avait pris une matinée de prière avec le conseil, et c'était quand même quelque chose qui est ressorti de se dire « mais on ne veut pas s'endormir, on veut rester réveillé ». Et c'est pour ça qu'on va démarrer cette série de prédications « réveille-toi ». Le réveil, je crois que ça fait partie d'une connaissance commune qu'il y a chez les évangéliques. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du réveil ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Enfin, levez juste la main comme ça, vous pouvez vous réveiller, et moi je sais si ça vous dit quelque chose ou pas. Ben, en fait, il y a eu des grandes périodes dans l'histoire où d'un coup il y a eu des masses de conversions, où il y a eu un renouveau de la vie chrétienne, et on a appelé ça le réveil. Mais ce n'est pas si facile de le définir, le réveil. Enfin, si vous y réfléchissez, je vous demande une définition du réveil. Alors, répondons pas tous maintenant, je vous invite à m'envoyer un petit message et vous me dites ce que c'est le réveil pour vous. Ça m'intéresse et ça m'aidera aussi à préparer cette série de prédications. Et c'est un thème qui n'est pas forcément si présent dans la Bible. Si vous regardez le terme réveil, il n'apparaît pas souvent dans la Bible. Par contre, il y a le thème de l'éveil, c'est assez intéressant, parce que c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la culture populaire, le fait d'être éveillé, de ne pas simplement se laisser aller par ce qu'on voit, ce qu'on touche, mais de pouvoir être éveillé, et surtout le fait de ne pas s'endormir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nous vivons dans un monde de mensonges. Notre monde est un tissu de mensonges. Et c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, on n'a pas envie que ce mensonge y grandisse toujours plus et puis qu'il devienne omniprésent. Mais on a l'impression que c'est dans cette direction-là que nous allons. Alors avant d'aller plus loin, je fais juste une petite parenthèse. On ne va pas parler de complotisme ce matin. Parce que le complotisme, ça sous-entend qu'il y aurait un groupe de personnes qui va mentir dans le but de manipuler les autres. Et je ne crois pas qu'on soit dans un complot aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses qui animent les gens, hein, la soif du pouvoir, la soif de la richesse, et ça va permettre des fois un certain accord entre des groupes de personnes pour augmenter la richesse de quelques-uns, la puissance de quelques-uns. Mais ce n'est pas des personnes qui vont se concerter pour amener un grand mensonge face à toute la société. Pourquoi ? Mais parce que simplement, ça impliquerait tellement de personnes qui devraient se mettre d'accord sur la même idée que ça paraît invraisemblable. Donc quand je parle de complot, c'est vraiment des gens qui se mettent d'accord dans le but de manipuler les autres. Par contre, le mensonge est largement présent, largement accepté, et on a l'impression que c'est en train de grandir de plus en plus. La semaine dernière, la RTS a publié un interview de Gérald Bronner. C'est un sociologue, et puis il a dit plusieurs choses intéressantes. Et une chose intéressante qu'il a dit, c'est que jusque dans les années 60-70, l'être humain, la société, avait l'impression que l'avenir serait meilleur, que demain serait meilleur, parce qu'on était dans une société en progrès, qui allait de progrès en progrès. Et tout d'un coup, il y a eu un revirement de situation où on s'est dit, mais en fait, on n'est pas sûr que demain soit meilleur que hier. Et une deuxième chose qu'il a dite, très intéressante, c'est que tout d'un coup, à partir des années 80, 90, l'homme a quitté l'idée d'explorer le monde pour aller à la découverte de soi. La grande aventure de l'exploration du monde. Ça, je crois que ça parle à tous, vous parlez à tous les petits garçons, ils ont envie d'aller découvrir le monde. Et certainement les petites filles aussi. Et tout d'un coup, on a quitté cette idée d'aller explorer le monde pour partir à la découverte de soi-même. Et tout d'un coup, on a vu plein de programmes de développement personnel pour aller chercher qui on est réellement. Et actuellement, dit-il, nous sommes en train de passer de la post-vérité. Alors ça, vous en avez déjà entendu parler, certainement, parce que, vous voyez, c'est ce mythe de l'époque moderne où la science va venir révolutionner notre vie, apporter toute la solution et sauver l'humanité. Et quand on a compris que la science n'allait pas résoudre tous nos problèmes, ça a remis en question un peu toute notre vision du monde. On s'est dit, mais est-ce que finalement la vérité existe ? Et on a commencé à accommoder les différentes vérités qui étaient autour de nous pour dire, mais finalement, chacun a sa vérité et la vérité absolue, elle n'existe pas. Ça va, je ne vous ai pas perdu là ? C'est bon ? Et il dit maintenant, en fait, on est en train d'aller un petit peu plus loin. On est en train d'entrer dans la post-réalité. Et je trouve son analyse très intéressante. Il est en train de dire, en fait, que maintenant, non seulement on va essayer d'accommoder ces vérités, mais on va essayer de créer un monde qui correspond à notre vérité personnelle. Pourquoi ? Mais c'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on va chercher qui on est à l'intérieur de nous, on a toujours l'impression qu'il y a une cause extérieure qui nous empêche d'être qui on est réellement. Et pour pouvoir s'affranchir de ce qui nous empêche d'être qui on est réellement, eh bien, il faut modifier la réalité. Et quel est le moyen le plus simple de modifier la réalité ? C'est le mensonge. Et on le voit aujourd'hui dans les médias, c'est absolument incroyable. Il y a d'abord eu les fake news. On donne des fausses informations. Mais maintenant, on a l'impression qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie où on va vraiment modifier l'ensemble du système pour pouvoir dire ce qu'on veut. On le voit, je ne vais pas nommer des politiciens, mais certains politiciens vont tout d'un coup, voilà, vous ouvrez les journaux, vous saurez de qui je parle, mais vont dire, tiens, telle statistique, ça ne correspond pas à l'impulsion économique que je vais donner dans mon pays. Donc la chef des statistiques, elle a mal fait son travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vire la personne et on remplace quelqu'un qui va dire ce qu'on a envie de dire. Ou même chose, il y a des satellites qui donnent des informations sur la planète qui ne correspondent pas à ce qu'on a envie de transmettre sur la réalité de comment se porte le monde. Alors, il suffit d'éteindre les satellites. Et puis comme ça, on pourra dire quelle est notre vision du monde, et donc on pourra redéfinir la réalité. Et c'est assez incroyable de voir ce mensonge qui est là. On est en train de grandir dedans, et c'est en train de devenir normal. Et des fois je me dis, mais comment c'est possible que laisser les gens mentir puisse fonctionner? Et je crois qu'en fait, à la base, c'est parce qu'on est dans un monde qui est emprisonné par le mensonge. Parce que Satan, il est en train d'essayer de nous enfumer. Il est en train d'essayer de nous enfumer parce qu'il sait quelle est la fin. Et il se dit, mais il faut que tous ces gens qui sont les créatures de Dieu, qui ont été créés à l'image de Dieu, ils soient corrompus jusqu'au bout, jusqu'à la mort et jusqu'à ce que tout soit détruit. Et une chose que le mensonge fait très bien, c'est que ça permet de mentir, bien sûr, mais c'est que ça répond à un problème qu'on a face à l'avenir. On a dit dans les années 60-70, on arrête de croire que l'avenir sera meilleur, et peut-être qu'il sera pire. Et ça crée de l'incertitude. Et non seulement ça crée de l'incertitude, l'avenir a toujours été incertain, mais on a l'impression qu'on va vers quelque chose de dangereux. Qu'on va vers quelque chose où ça va vraiment être compliqué. Très compliqué, dans notre société, mais aussi nous personnellement. Je ne sais pas comment vous envisagez votre avenir personnel, familial, de couple, professionnel. Et l'incertitude, elle est là et on l'aperçoit comme une menace. Et en fait, quand on va changer la réalité, ben ça permet de dire, mais l'avenir, il est magnifique. Il y a un jour, on va se faire rattraper par la réalité et ça risque d'être brutal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? J'ai lu le texte de la Bible où Jésus dit « Mais vous ne pouvez pas rester éveillé une heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce n'est pas cette traduction que j'ai prise, mais c'est celle-là qui me vient. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme a tendance à se laisser aller. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que je pense que dans cette salle, il y a déjà un grain de réveil qui est là. Vous savez, j'ai un truc extraordinaire le dimanche matin quand je viens ici, j'habite à une heure de route, c'est que sur l'autoroute, ça roule bien. Pourquoi? Parce que tous les gens sont en train de dormir le dimanche matin. Et vous avez fait le choix de mettre votre réveil et d'être là ce matin. Donc il y a déjà quelque chose qui est là. Et je le dis un peu comme ça en plaisantant, mais j'en suis convaincu. Il y a vraiment Dieu qui est en train de nous parler et de faire quelque chose avec nous. Revenons à Gethsémané, 2000 ans en avant. Jésus, il est là avec ses disciples. Il dit, mais ne dormez pas. On a besoin d'être réveillé par l'Esprit de Dieu. On a besoin qu'il nous saisisse et qu'il nous fasse comprendre quelle est la réalité. Parce qu'on a un monde matériel dans lequel on vit, mais il y a une réalité spirituelle qui est là et qui est bien plus forte. Et je crois qu'on en est tous conscients. C'est aussi pour ça qu'on accepte le mensonge. C'est parce qu'on se dit que ce qu'on voit, ce n'est pas la finalité de l'homme, mais à quelque chose de bien plus grand. L'homme est destiné à quelque chose de bien plus puissant que le monde matériel qu'on voit. Et donc on est prêt à se laisser bercer d'illusions parce qu'on sait qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous appelle à un avenir plus radieux. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils auraient simplement pu se dire, finalement, Jésus s'était trompé. Et c'est simplement un homme qui est mort sur une croix. Et je crois que quand on n'est pas réveillé, je crois que c'est ce qu'on se dit, on voit la mort de Jésus il y a 2000 ans en arrière, puis on se dit, ben, quelqu'un qui est mort sur une croix. Grand sage, grand enseignant, intéressant, culturellement, ça a été une révolution, enfin bref, quelque chose de tout à fait humain et matériel. Mais si on est réveillé, la mort de Jésus prend un sens complètement différent. C'est pas juste un homme qui est mort sur une croix, c'est le Fils de Dieu. Celui qui vient de la réalité à laquelle on aspire. C'est le Fils de Dieu qui est venu briser notre réalité et qui est venu payer pour le tissu de mensonges qu'on s'était construit, qui est venu déchirer le voile qui nous empêche d'accéder à la réalité, qui est venu nous laver de tout ce qui nous empêche vraiment d'être nous-mêmes, du péché qui nous enveloppe si facilement et qui est mort sur la croix. Et ce jour-là, ce n'est pas juste un homme qui est mort sur une croix, c'est le Fils de Dieu qui est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Un événement absolument cosmique. Le bouleversement de l'histoire du monde. Vous voyez, juste endormi ou réveillé, et tout d'un coup, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité change complètement. Nous avons absolument besoin d'être réveillés par le Seigneur, sinon on passera à côté de l'essentiel. Et si Jésus est venu, ben c'est justement pour qu'on puisse prendre part à cette réalité. Alors je vous ai dit que le réveil était présent, très peu présent dans la Bible, mais il y a quand même une ou deux fois où il est mentionné. En Juge 5, versets 11 et 12. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. En fait, Déborah s'est réveillée. Là, on est après, mais elle a été réveillée par Dieu et elle a, par la grâce de Dieu, pu délivrer Israël de ses ennemis. On peut penser aussi à Cyrus. Et là, on lit en Esdras 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit taire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. En fait, Cyrus va renvoyer les Juifs de déportation pour qu'ils puissent aller reconstruire Jérusalem. Et Dieu a réveillé son esprit. Et c'est ça dont on a besoin. Et je pense encore à d'autres personnes, mais notamment Samuel. Samuel, ce petit enfant qui est en train de dormir. Et Dieu le réveille. Et que fait Samuel ? Oh, je suis fatigué. Il se retourne, il se rendort. Mais non, il va vers Élie, qui était son mentor, pour lui dire, mais pourquoi tu m'appelles ? Et puis au bout d'un moment, Élie lui dit, parce que ça arrive plusieurs fois, il lui dit, mais écoute, c'est Dieu qui est en train de te réveiller. Et Samuel lui dit, me voici. Et aujourd'hui, Dieu est encore en train de parler, il est encore en train de nous réveiller. Et quand on pense à Samuel, je me dis, mais c'est incroyable, le grand homme qu'il a été, il a prophétisé, il a fait des choses juste incroyables qui ont été vraiment conduites par le Seigneur. Et toi, le Seigneur appelle, réveille-toi. Est-ce que je suis prêt à me laisser réveiller par le Seigneur ? Il y a un côté assez extraordinaire qui nous échappe complètement. Parce que ce réveil où Dieu parle de façon quasi audible et où tout d'un coup on voit une manifestation de la puissance de Dieu comme on ne le voit pas dans l'ordinaire, ça arrive de temps en temps. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Il y a vraiment une grâce de Dieu à laquelle j'aspire, à laquelle je vous invite à ce qu'on puisse aspirer en tant qu'Église, de dire, mais Seigneur, viens nous réveiller, pas seulement moi, mais notre Église, notre communauté, notre région, notre pays, notre monde. Je pense à plusieurs événements de l'histoire. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais au XIIIe siècle, je crois, il y a un homme qui s'appelait Pierre Valdo, je ne suis plus tout à fait sûr de l'époque, qui a donné naissance aux Vaudois. Ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans l'église. Et ils sont allés pour toutes sortes de raisons, ils sont allés dans le Piémont en Italie. Et là, il s'est passé des choses assez extraordinaires, notamment quand ils ont été persécutés, où d'un coup, il y a eu des prophéties, mais juste incroyables. Ou les Huguenots dans les Cévennes, quand ils ont été persécutés, on appelle ça la période du désert, parce que c'était vraiment très compliqué la foi. C'était avant la Révolution française, au XVIIIe siècle. Et grosse persécution de la part des catholiques, de la part de l'État. Et là, il y a eu des prophéties absolument extraordinaires. Je pense à une dame, c'est un fait qui a été documenté. C'était une paysanne qui parlait le patois. Et pendant la nuit, elle était en train de dormir et elle se mettait à parler de Dieu, à enseigner en bon français de façon absolument extraordinaire. Les gens sont venus de loin pour venir l'écouter et c'était totalement surnaturel. On peut penser un peu plus tard au réveil de Genève, où tout d'un coup, il y a un homme qui vient de l'étranger, Aldan, qui trouve des étudiants en théologie, qui leur parle de Jésus. Waouh ! Ils sont saisis, ils venaient d'une foi où on était assez humaniste, on parlait pas trop de la résurrection du Christ, c'était pas bien vu, et tout d'un coup, il y a une rencontre avec Jésus. Ils disent, mais c'est lui qu'on veut suivre. Et ils se mettent à parler de Dieu. Et il y a des répercussions dans le monde entier. On peut penser encore à Azusa Street, c'est aux États-Unis, où tout d'un coup, il y a 1905, il y a l'Esprit de Dieu qui tombe ici. On ne sait pas pourquoi. Et ça se répand dans le monde entier. Et on pourrait multiplier des exemples comme ça, où tout d'un coup, Dieu saisit une petite équipe de croyants, une personne, des dizaines de personnes, et tout d'un coup, il y a un impact qui est là et qui arrive dans un terreau fertile. C'est possible. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas ici et demain? Moi, j'en sais rien. Moi, je peux que y aspirer. J'ai envie de prier le Seigneur pour ça. J'ai envie de prier qu'on soit davantage convaincu. Et moi le premier, j'ai besoin d'être réveillé. Demandons au Seigneur ce réveil. Vous savez, le mensonge, il adoucit notre faim. Il adoucit notre faim. En train de dire, mais ne vous inquiétez pas de l'avenir, tout va bien aller. Hein, vous savez, le réchauffement climatique, c'est très grave. Vous savez, les guerres, finalement, ça va finir par passer, il n'y a pas trop besoin d'en parler, il n'y a pas trop besoin de réagir. Et en fait, tout ce tissu de mensonge, il est là pour qu'on ne réalise pas qu'on est en train d'aller à l'abattoir. Et il y a tout le mensonge humain, mais il y a tout ce que Satan il essaie de faire pour nous enfumer. Dire, mais finalement, dans la vie, ce qui est important, c'est d'ouvrir une bonne bouteille de rouge et puis de manger un bon beefsteak. C'est de se retrouver entre amis et puis de partager un bon moment ensemble. C'est d'aller voyager à l'autre bout du monde. On essaie de nous mettre un voile devant les yeux pour qu'on ne se rende pas compte quelle est notre fin, quelle est là où on arrive à la mort. Et ce sociologue, il disait, pour le sociologue, il faut d'abord une prise de conscience, puis inventer une narration collective qui nous réconcilie avec l'incertitude. Et quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais pourquoi ils ne croient pas en Jésus-Christ? Parce qu'on n'est pas dans une narration collective, on est dans l'histoire du Dieu vivant qui vient sur terre pour nous réconcilier avec l'avenir. Parce qu'avec le Christ, l'incertitude, elle est plus dangereuse. On sait où il nous conduit. L'incertitude, eh bien, c'est tous les possibles qui sont ouverts devant nous. Et avec la foi, on sait que Dieu nous conduit vers un bel endroit. Vous savez, les mondes et tout sont issus de mensonges. La promesse, c'est la mort. Vous ouvrez les journaux, malgré tout le tissu de mensonges qui est en train d'être tissé, la promesse, c'est la mort. C'est ce qui est dit à chaque page du journal. Si vous êtes comme moi, à chaque page internet, quand on scrolle, eh bien, on voit la mort, la mort, la mort, la mort. Le monde réel, le monde de Dieu, la vérité, qu'est-ce qu'elle nous promet? La vie, la vie. Alors ne nous laissons pas endormir, ne nous laissons pas assommer par ce tissu de mensonge, mais demandons à Christ de venir déchirer ce tissu de mensonge pour que nous saisissions quelle est sa puissance, quel est son projet pour nous et pour l'humanité. Alors, je propose qu'on ait un tout petit aperçu, parce que Jésus il dit, mais vous ne pouvez pas prier une heure avec moi. Alors, je propose qu'on puisse terminer par la prière, et on va poursuivre cette discussion, ce sujet, le 21 septembre. Je vous rappelle, on a des rencontres de prière qui arrivent, on a des groupes de maison où on peut prier, on a le matin, un petit moment avant de partir au travail, pour prier, on a le soir, un petit moment avant de s'endormir, pour prier, on a des... Regardez à gauche, à droite, il y a des frères et sœurs qui sont là pour qu'on puisse prier ensemble. Veillons et prions et demandons vraiment à Dieu avec conviction qu'il vienne nous réveiller, nous personnellement, notre communauté, notre quartier, notre pays. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on peut faire nous. Seigneur, nous venons humblement devant toi. Seigneur, pardon parce que nous nous sommes endormis malgré toutes tes recommandations, malgré toutes tes mises en garde. Seigneur, viens nous réveiller, viens réveiller notre esprit, viens réveiller notre âme. Nous avons soif de toi. Seigneur, quand on entend parler du Christ qui est mort sur cette croix pour venir nous apporter ta vie, il y a un feu qui brûle dans nos cœurs. On a soif de plus. Seigneur, quand on entend parler de ces grands réveils de l'histoire, on a envie de les voir. On a envie de les voir parmi nous, on a envie de les voir dans notre société. Seigneur, nous y aspirons et nous te demandons de souffler ton esprit ici en ce lieu, de réveiller les cœurs, de réveiller les âmes, de préparer le terrain pour que l'évangile soit proclamé et reçu par nos contemporains, pour qu'on voit ta gloire, pour qu'on voit le monde tel que toi tu l'as voulu. Seigneur, ne nous laisse pas endormir par un tissu de mensonges, mais réveille-nous par ton esprit pour ta vie. Amen.